Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Ciné Brunch. Je suis moi-même Louis Laramé.
Ah oui!
Ben oui.
C'était pour ça le... Je suis moi-même. J'ai même des pièces d'identité pour le prouver.
Quelle intégrité!
Toujours. Je suis, comme d'habitude, moi-même, entouré de mes co-animateurs, co-animatrices, Mélina Lopez-Nadeau.
Bonjour!
Et Jim Boulay.
Bonjour!
J'hésite toujours, en fait, quand je nomme mon co-animateur, parce que il porte plusieurs pseudonymes. J'ai décidé d'y aller avec celui qui l'a
le plus classique.
Sur Facebook.
Voilà.
On a une émission chargée aujourd'hui, madame, messieurs. On a une grosse comédie, un gros film d'horreur, puis une pléthore de petits films du FCMS.
Petits films, je suis pas sûr qu'on peut dire ça. Il y en a qui sont pas mal longs.
Ah oui, ok, t'as pas juste été voir des... Okay,
non, en fait, j'ai pas vu de court-métrage, donc...
C'est bien décevant. OK, fait que... Calvin, mesdames, messieurs, sachez que des gros Jim films. A été trop au cinéma.
J'ai été trop au cinéma. J'ai les yeux rouges là, à perpétuité depuis
que j'ai quitté. Je pensais que c'était la drogue, ça.
Non. Heureusement, d'ailleurs, que c'est pas la drogue, parce que sinon, voilà.
Ça serait
une surconsommation.
Écoute, c'est des choses qui arrivent. Mais... Sans plus attendre, on va commencer avec les nouvelles de la semaine. Moi, je vais commencer par la mienne, puis j'ai pas... Je m'excuse, chers auditeurs, auditrices, ça n'a aucun rapport avec le cinéma, les brunchs ou le popcorn.
Bon.
Mais c'est des bons amis à moi qui organisent une soirée d'humour au Bac-et-Bière à tous les deux jeudis. Et cette semaine, il y a un rabais étudiant où est-ce que tous les étudiants et étudiantes qui présentent une carte d'identité peuvent rentrer pour 5$. Au moment de l'enregistrement, les humoristes n'ont pas encore été annoncés, mais comme à l'habitude, ça va être extraordinaire. Vous aurez peut-être également la chance de voir moi-même faire la porte à l'événement.
Ooh.
Écoute, ben, ne serait-ce que pour te voir venir prendre des photos, des selfies avec Louis devant l'entrée.
Oui.
Tu sais, animateur de Cinébrunch, ça peut toujours être...
Puis j'ai l'air particulièrement d'un bouncer lors de ces événements-là.
Oui.
Prendre un air sérieux.
Un bandeau des années 80, mettons. Là.
Ouais.
Moustache.
Parce que nos auditeurs auditrices ne savent pas que je porte une moustache de policier en ce moment assez féroce. Fait que on va leur laisser le mystère planer. Ou stalker-moi sur Facebook.
Bon.
Jim, qu'est-ce que t'as fait toi cette semaine?
Ben écoute, ce que j'ai fait cette semaine, honnêtement, ça serait de mentir que de dire le contraire de j'ai passé ma semaine au Festival de cinéma du monde de Sherbrooke. D'ailleurs, je vais critiquer plusieurs films un peu plus tard. Mais je vais vous parler en fait d'autre chose. Je vais parler d'une série que j'ai commencé à regarder sur Netflix. C'est pas une nouvelle série, c'est commencé en 2015. Et vous savez, hein, surtout Louis, tu commences à être habitué, tu sais à quel point j'aime les films sous-titrés, parce que je ne vois que ça, ou presque, depuis l'année 2018. Eh bien, j'ai commencé à écouter la série Occupied, une série télévisée norvégienne, la plus coûteuse jamais réalisée en Norvège. L'histoire se passe évidemment en Norvège, dans un futur assez proche. Le premier ministre de la Norvège qui s'est fait élire pour son idéologie environnementaliste...
Et norvégienne. Oui, merci.
Qui annonce qu'il va mettre fin à la production d'énergie fossile sur son territoire, malgré les contre-indications et le désaccord de l'Union européenne et des pays environnants. Malheureusement pour lui, des forces politiques plus fortes et plus obscures s'exercent et le pays devient occupé par la Russie, dit-on, jusqu'à ce que la production pétrolière et gazière revienne à ce qu'elle était l'année précédente. Les choses vont évidemment dégénérer. C'est entre autres une série, on pourrait dire, politique, journalistique et en même temps un peu policière. On suit plusieurs couples dont les métiers sont totalement différents et vont s'entrecroiser d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment excellent jusqu'à maintenant. J'ai vu quelques épisodes et je recommande fortement. C'est sur Netflix, Occupied.
Excellent, ça me semble effectivement fort intéressant. Mélina, qu'as-tu à nous apprendre cette semaine?
Oui, moi cette semaine, en fait, je vais vous parler aujourd'hui de mon petit péché mignon, qu'on pourrait dire.
Les écureuils.
Non, ça n'a même pas rapport aux écureuils.
Oh mon Dieu!
Bel essai, Louis.
Les lapins?
Non. Ah. En fait, je me suis remis dans le bain d'une série qui est pour ados un peu, qui se joue sur les ondes de VRAC TV et que j'aime particulièrement beaucoup. C'est la série Le Chalet et la saison 4 vient de terminer. Donc, c'était la finale cette semaine. Et j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette série-là. Et j'en avais parlé à plusieurs de mes collègues de classe à l'époque qui étaient toutes âgées dans la trentaine et qui disaient avoir elles aussi un petit crush sur cette série-là. C'est vraiment très bon, c'est bien fait, les acteurs sont bons, c'est rafraîchissant à voir, ça fait du bien. Donc, vous pouvez rattraper ça sur Illico.
Bon.
Excellent.
Allez-y de façon illico.
Hey! Cette brusque transition est une présentation de mon sens de l'humour. Parlant de sens de l'humour et de choses drôles ou questionnablement drôles, Mélina, t'es allé voir une comédie cette semaine.
Oui.
Là, j'arrête un instant, faut faire une confession. J'ai également été voir la dite comédie, donc j'ai bien hâte d'entendre ce que Mélina va en dire parce que j'ai des opinions assez fortes à propos de cette comédie-là.
Ah oui, ok. Je savais pas, mais comme on est généralement pas d'accord sur tout ce qui entrait au film, j'imagine que ça risque d'être fort intéressant.
Oui.
Donc oui, la comédie, le film en français, en fait, il s'appelle Blocker, en anglais Blockers, et comme Louis l'avait mentionné à l'époque, il y a le coq, l'animal devant, le mot bloqueur.
L'image, oui, c'est
ouais,
ça.
C'est ça. Et donc, cette comédie, en fait, c'est principalement un film d'adolescente, et petit résumé rapidement, là, Lisa, qui est jouée par Leslie Mann, que j'aime beaucoup et qu'on appelle parfois la Slimane, pour faire un jeu de mots avec la, avec bière.
On ne devrait pas, en tout cas.
Moi, j'aime bien le faire souvent. Donc, la Slimane panique en apprenant que sa fille Julie, en route pour son bal des finissants, a conclu un pacte de perdre sa virginité avec ses amis d'enfance Sam et Kayla. Quand on dit de perdre ensemble, c'est chacune de son côté avec une personne différente. Et non pas les trois ensemble. Parce que ça porte à la confusion un peu comme phrase. Je vous laisse spécifier. Donc,
un film d'ado, clairement.
Et donc là, la mère, Lisa, qui est célibataire et insécure, elle convainc Mitchell, colosse au cœur tendre et père de Kayla, afin qu'il l'aide à contrecarrer ce plan. Et le père de la troisième fille, le père de Sam, qui s'appelle Hunter, il est divorcé, il est un peu bizarre. Lui, il s'efforce en fait de freiner les ardeurs des deux autres parents parce que lui est convaincu que sa fille est lesbienne en fait. Donc, il pense que il y a pas de problème avec ça. Il veut la laisser, je sais pas, explorer sa sexualité. C'est un peu étrange, mais il change d'épaule quand il l'aperçoit embrasser, quand il aperçoit sa fille embrasser son cavalier qui est un mâle, un homme, comme on dit.
Comme on dit, oui!
Donc, avant d'en parler plus, on va écouter la bande-annonce. Voilà, la bande-annonce.
Vive le bal!
Déjà le bal définissant.
Ça grandit trop vite. Je peux plus serrer ma fille dans mes bras sans sentir sa poitrine.
Julie a pas éteint son ordi.
Vous espionnez nos filles?
Non.
On comprend rien de ce qu'elles disent, alors ça compte pas.
Super, j'adore les énigmes.
Elles parlent d'aubergines.
En fait, c'est l'émoji qui représente le pénis.
Hein, quoi?
Les émojis ont un deuxième sens. Les arbres, c'est de la Marie. Et ça veut dire Yas Queen.
Yas Queen!
Nos filles n'ont pas vraiment réfléchi, c'est clair, ça. Je vais les en empêcher.
J'embarque.
Oh boy.
Oui, j'avais oublié
Oui. C'est une prémisse.
C'est excellent, j'avais oublié de le spécifier. En fait, oui, l'affaire avec les emojis, c'est assez drôle. Parce que les jeunes se communiquent avec les emojis, en fait, qui semble-t-il ont une deuxième signification. Je n'étais pas vraiment au fait de ce chose, de cette tradition.
Mélina, j'ai une question indiscrète, mais t'as quel âge?
J'ai 25 ans.
J'en ai 28, puis je suis au courant de ça, moi. Puis même aussi, que l'aubergine, spécifiquement, je peux te dire que la pêche, c'est une paire de fesses.
OK. Mais j'avais jamais réfléchi à ça. Tu vois, moi, j'utilise plus le singe et les emojis jaunes normales. Plutôt que des fruits et des légumes pour représenter des parties du corps. C'est ça. Voilà.
Bref.
Bref, parlons de la réalisatrice. En fait, elle s'appelle Kay Cannon. C'est une femme et c'est la première fois qu'elle réalise un film. Elle a été scénariste sur les films Pitch Perfect, La Note Parfaite. Mais c'est ça, c'est la première fois à la réalisation. Donc, on va rentrer dans le cœur de la discussion, en fait, c'est-à-dire ma critique. Donc, en fait, ce que j'ai à vous dire, c'est, premièrement, je veux juste étirer ça pour pas que Louis ne sache encore si j'ai aimé ça ou pas. Mais là, il me regarde et il
se mord plus, là, il veut.
Mais oui, mais c'est parce qu'il y a des phrases que t'as dit là-dedans qui font aucun sens. Mais je t'apprécie comme personne, j'ai donc hâte d'entendre...
C'est des mots de politicien, comme on dit. Bref, je me lance. Donc, c'est vraiment une typique comédie d'ado. Au niveau du scénario, j'ai trouvé ça bien. L'humour était bon. C'était absurde, mais c'était pas trop absurde, donc ça me satisfaisait. Je trouvais ça bien balancé. Et les personnages, bon, les personnages sont tous un peu typés. On rentre pas du tout dans la psychologie vraiment des personnages. On voit pas tant le backstory. Mais en même temps, c'était pas vraiment nécessaire vu le type de film. Et chose que j'ai quand même aimée, on aborde la question un peu des doubles standards à propos de la sexualité des hommes et des femmes. Donc, c'est quand même un petit plus pour ce film-là. Mais au niveau technique, selon moi, il y a rien vraiment de spectaculaire. Puis il y a même plusieurs coupes qui fonctionnaient pas et qui me dérangeaient l'œil. Qui n'étaient pas raccord entre elles. Donc, on passait d'un plan à quelqu'un qui a la bouche ouverte, le plan d'après, il a la bouche fermée. Donc, des choses comme ça qui ne fonctionnent pas à un niveau plus technique. Mais sinon, ça m'a bien divertie. J'ai quand même ri et j'ai trouvé ça bien pour le genre. Donc, moi, j'y vais avec un 7 sur 10.
Ouh, OK. Est-ce que je peux rapidement...
Vas-y, Louis, je suis curieuse.
Moi, je deuxième confession de la journée, j'ai eu, par le passé, fait un challenge d'écouter toutes les American Pie en ligne. American Pie en français, c'est Folie Graduation.
Oui.
Et 1 à 8. Je n'ai donc pas vu American Reunion, Réunion de Graduation. Et honnêtement, quand j'ai entendu parler de bloqueur, j'ai fait « Hmm, ça va être la même chose, il y a même un des acteurs qui est là encore, pourquoi? » Mais quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça drôle. Mm. Mais comme, et j'ai même trouvé ça touchant par moment. Je pense que c'est le American Pie qu'on avait besoin en 2018. Mm. Je pense que maintenant, quand il est question d'un film d'ado cru, parce qu'il y a des scènes vulgaires où il y a du... t'sais, le rating R pour mature, ouais, c'est nécessaire, oui, parce qu'il y a des scènes de sexualité, il y a la nudité frontale, mais c'est bien fait, c'est vulgaire, mais c'est drôle. Tu sais, il y a des jokes de pets et de d'autres choses vulgaires que j'ai trouvé extraordinairement bien faites. C'était pas, tu sais, on sort pas de là en ayant une compréhension plus grande du conflit israélo-palestinien, là. Où on n'a pas touché au sublime du 7e art. Mais c'était le fun. Moi, c'était clairement un 8.5. Là. Moi, j'ai eu du gros fun à voir ça. Oui, à au moins deux reprises, je me suis tapé les cuisses et j'ai eu peur de pleurer de rire.
Tu vieillis, Louis? Tu vieillis?
Non, en fait, c'est vraiment l'adolescent en moi qui trouve ça.
Rajeunis, Louis.
C'est beaucoup pipi, caca, poil. Et on aime ça. Une scène, entre autres, de chugging qu'il faut voir pour comprendre.
C'était particulier, disons.
Ah non, c'était parfait.
Vous êtes coquin.
Cocasse, je préfère cocasse.
Bon. Donc, c'était ça pour ce film-là, Bloqueur et Blockers en anglais. Donc, à voir si vous voulez...
Rapidement, John Cena faisait un extraordinaire travail. Moi, je le connaissais comme Luther, qui est un personnage très, très stéréotypique, très, très plus grand que nature. Là, en tant que Mitchell, le père un peu trop sportif...
Mais émotif aussi, un peu en même temps.
Oui, ça le faisait. C'était crédible, puis j'ai aimé ça.
Ouais, c'était bien.
C'est drôle, moi, j'ai pas aimé ce film-là, puis je l'ai même pas vu. C'est fou, hein?
Mais ça, c'est parce que t'as l'esprit fermé, Jim. Ouais, c'est vraiment parce que t'as l'esprit fermé.
Mais je suis reconnu pour ça.
Écoute, c'est des affaires grecques. Ben, merci, Mélina.
Ben, merci, Louis.
Hey, mesdames, messieurs, moi aussi, j'ai été voir un début directorial, en fait, début réalisatorial, parce que c'est directorial debut quand on parle dans le monde anglophone.
Un premier film d'un réalisateur?
Ouais, John Krasinski, qui réalise le film A Quiet Place, à un coin tranquille. C'est un film d'horreur. J'y allais là avec beaucoup d'appréhension. En fait, j'y allais là, pour être honnête, à cause d'une pub sur un podcast que j'écoutais à ce moment-là. Parce qu'il parlait d'un univers post-apocalyptique. J'avais vu la bande-annonce, j'étais pas sûr d'être convaincu. On va juste rapidement lire la description, là. La société post-apocalyptique est plongée dans le silence le plus total. Le moindre bruit peut être mortel, faisant paraître des monstres destructeurs. S'ils se rendent parfois en ville pour trouver des vivres et du matériel de survie, la famille Habbett reste généralement cloîtrée dans sa ferme pendant que papa cherche un moyen d'enrayer la menace. Les enfants tentent de vivre une existence normale. Tout le monde est encore affecté par la mort brutale d'un des leurs. Maman est enceinte et elle doit bientôt accoucher. Contrôler les sons du nouveau-né risque de ne pas être facile. Mmh. Avec une description comme ça, où est-ce que vraiment le son est super important, vous allez comprendre pourquoi la bande-annonce qu'on va écouter à l'instant est un peu difficile à comprendre, puis légèrement abstraite quand il s'agit de qu'est-ce qui se passe dans le film. On y va.
On y va. C'est John Cage, hein, c'est ça?
John Krasinski.
Ah, excuse-moi.
Mais qui joue d'ailleurs le rôle principal avec Emily Blunt.
Donc une bande-annonce qui n'a pas de parole.
Non, pas du tout. En fait, il y a plusieurs bandes-annonces qui ont sorti pour le film, au moins trois, et aucune d'entre elles ne contient des paroles. Le plus qu'on a, c'est dans cette bande-annonce-là, dans l'extrait qu'on a eu, c'est le cri inarticulé qu'on entend après le bruit de la fusée. En fait, c'est une fusée jouet qui est déclenchée par l'enfant de... apparemment 6-7 ans, de la famille Abbott, et qui s'avère fatal. Et on entend son père hurler pour essayer de se rendre jusqu'à son enfant avant de le voir partir. C'est le premier contact qu'on a avec l'univers. En fait, c'est un film d'horreur, mais c'est un film qui est hautement contemplatif. Parce que même dans le film, il y a probablement moins de 15 lignes de dialogue total dans tout le film.
Okay,
c'est un
carrément.
Film qui se passe énormément par langage des signes. La plus vieille fille de la famille est sourde et muette et doit donc entièrement dialoguer déjà par langage des signes.
Ben, dans le contexte, c'est bien, dans le fond, que...
Oui, oui. Puis en fait, c'est ça un peu... C'est quand même drôle à voir comme famille, parce que la famille Abbott est clairement une famille agraire. C'est-à-dire que le film commence, puis on les voit aller chercher des médications, mais quand ils reviennent, c'est une ferme sur laquelle ils sont. Ils ont du blé,
Pas de l'argent, là. Ils ont du vrai blé. Là.
Ils ont du vrai blé en train de pousser. Céréales, ils ont un silo à grains, en fait, qui est sur la terre. Ils peuvent survivre à ce qui se passe en ce moment, en ne faisant aucun bruit. Il y a énormément de systèmes. Tous leurs passages où ils se promènent sont faits en sable pour s'assurer que les pas ne sont pas entendus. À l'intérieur de la maison, tout est couvert le plus possible de morceaux de vêtements. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de considérer à quel point ils ont une existence normale à l'extérieur du silence absolu. Parce que on les voit jouer au Monopoly, on les voit donner l'école à la maison aux plus jeunes, on les voit interagir avec le monde un peu. Ce n'est que... entre les cracks. Ce n'est que lorsqu'il y a quelque chose qui sort un peu d'ordinaire qu'on comprend à quel point on est dans un monde d'horreur. C'est quand on les voit juste le breakdown, pas le breakdown, mais les chocs, c'est où est-ce que ça craque. C'est-à-dire que c'est quand ils reviennent de la pêche et qu'ils croisent quelqu'un qui... en fin de vie. Bref, c'est un film...
Parce que là, ça me fait penser un peu au film Tremors, là, jusqu'à maintenant.
Ah mon dieu, non, faut pas que tu le vois dans le même...
c'est pas ça, là.
C'est
pas, on marche, faut pas toucher à rien parce que ça fait du bruit, le bruit réveille le monstre, c'est pas
oui,
ça.
Oui, c'est ça.
OK, c'est comme Tremors.
Mais bien fait.
Okay.
Mais fait de manière
c'est
réaliste.
C'est pas comme Tremors.
C'est ça, c'est pour ça que j'essaie de dire que c'est pas Tremors, pas en toi. Okay. C'est l'idée de Tremors, mais fait de manière sérieuse. C'est un peu optimiste, dans le sens que je suis pas convaincu que dans un univers comme dans lequel ils vivent, la famille Abbott serait capable de si bien vivre que ça. Je pense pas qu'aujourd'hui, en Amérique du Nord, quelque chose comme ça pourrait se faire. C'est vraiment un beau moment d'optimisme dans la capacité de la vie humaine à survivre malgré tout, particulièrement quand on considère que la mère est enceinte. T'sais, c'est la vie à tout okay, prix. Ouais, là. Puis on s'entend, on les voit, tout le deuxième acte du film est passé à préparer pour la naissance de l'enfant avec des pièces insonorisées, avec des plans pour un paquet de contingentement. Oui, c'est extraordinairement beau de voir en fait l'optimisme du réalisateur pour la nature humaine puis l'idée qu'on puisse surmonter toutes les épreuves. Honnêtement, c'en est presque calmant. Et c'est ce qui rend le film encore plus efficace. C'est-à-dire que on voit des scènes de vie domestique de Emily Blunt qui est en train de juste se préparer à la naissance de son enfant, qui est en train de faire le souper pour ses enfants, le père qui montre à son jeune fils comment aller pêcher à la rivière pour être capable de se nourrir, la plus vieille qui se prépare un peu à prendre de la place pendant que sa mère va être en convalescence. Et c'est ça qui rend ça aussi dramatique quand les créatures surviennent, quand un accident arrive, il y a un incident avec une lanterne qui est éclatée par terre et on voit tout de suite tout le monde qui il y a des systèmes. C'est vraiment un extraordinaire film. C'est pas un film d'horreur à Amityville ou à l'exorcisme. C'est pas un film où les monstres sont là. C'est vraiment un film de contemplation où est-ce que l'horreur vient par petite dose mais par dose vraiment efficace. C'est un film que je recommande, en fait, très fortement. C'est plus proche du thriller ou du suspense que du film d'horreur. C'est considéré horreur seulement parce que le monstre est visible. Honnêtement, si le monstre n'avait pas été visible, j'aurais bien vu comme un suspense.
Okay.
Et je trouvais ça extraordinaire. Je pense que c'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu depuis vraiment longtemps. Je donne donc un solide 9 sur 10.
Mais ça me donne presque envie d'aller le voir avec ce que tu dis. Puis pourtant, je n'aime pas les films d'horreur en général.
Oui, mais je pense que justement, c'est le meilleur film d'horreur pour amener des gens qui n'aiment pas les films d'horreur. C'est pas fait au-delà. On ne demande pas de croire tant que ça. On ne demande pas à dépasser à chaque fois la limite de « Ouais, peux-tu vraiment y avoir un Frankenstein là? » C'est vraiment...
OK, t'es pas dans cette zone dynamique-là de croire non, c'est ou ça. Pas, t'es ailleurs, là, c'est ça.
Il te le demande un petit peu, surtout vers la fin, mais c'est vraiment plus une question de... Est-ce que tu es capable de te prendre d'amitié pour cette famille qui vit sa vie tranquille? Puis est-ce que tu vois vraiment comment ça se passe quand ça plante le système?
C'est pas des métaphores, là, un peu comme on avait dans le film Mother, avec on sait pas trop si c'est la réalité ou si c'est dans la tête de la personne.
Non, on le voit. C'est très clair. C'est vrai, là. C'est clairement, puis il y a plusieurs establishing shots. Il y a pas beaucoup de moments, justement, où ils mettent l'histoire au travers des coupures de journaux qui volent au vent ou qui sont accrochés au mur parce que le père essaie vraiment de comprendre qu'est-ce qu'il y en est puis comment est-ce qu'il peut les vaincre. Puis en même temps, il essaie aussi d'aider sa fille qui est sourde, mais que peut-être qu'avec le bon appareil, serait capable de rétablir. T'sais, elle doit avoir une de ces formes de surdité qui est corrigible avec des appareils. Dans un monde où la médecine existerait encore, il pourrait probablement travailler. Mais là, c'est juste lui, avec son petit kit de soudure, qui essaye de gosser des choses. Fait que sinon, c'est vraiment bien fait, puis on y croit vraiment.
Eh bien, intéressant. Merci beaucoup.
Un plaisir.
C'est le moment des sorties cinéma.
Je suis sorti cette semaine. On a une semaine pas mal occupée, guys. Ouais, mais la maison du cinéma, puis moi, on s'entend pas très bien sur qu'est-ce qui devrait sortir quand. Il y a aussi une question de distribution. Je pense qu'il y a beaucoup des films que je mentionne qui vont sortir la semaine prochaine. En réalité, ils sortent la semaine prochaine à Montréal et arrivent à Sherbrooke quand les distributeurs le veulent bien. Ce qui est malheureusement dehors de mon contrôle. Et un moment donné, je sais ça. Un truc que j'attends avec impatience, c'est « Tu n'as jamais vraiment été là ». La version originale de You Were Never Really Here. Suspense, Grande-Bretagne, dirigé par Lynn Ramsey, mettant en vedette Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov et Judy Roberts. La fille d'un sénateur disparaît. Joe, un vétéran brutal et torturé, se lance à sa recherche. Confronté à un déferlement de vengeance et de corruption, il est entraîné malgré lui dans une spirale de violence, ce qui me semble habituel pour les vétérans brutals et torturés. fait intéressant à noter, la bande-annonce feature des Jelly Beans, ce que je trouve toujours intéressant, et c'est produit et distribué par Amazon, qui a maintenant une maison de production de cinéma due à son système Amazon Prime, qui est maintenant disponible au Canada. La promesse de l'aube, Promise at Dawn, qui est un drame biographique français réalisé par Éric Barbier, qui m'en vedette une de mes actrices françaises favorites, Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney, Powell Puchalski et Nemo Schiffman.
Et c'était le film d'ouverture du festival, d'ailleurs.
Ben oui, toi. Mais je l'ai pas vu. L'as-tu vu, toi?
Pas encore.
Non. Pendant la fête des morts, Romain Gary souffre de violents maux de tête. Il tient à être traité dans un hôpital particulier du Mexique. Dans la voiture qui l'amène jusque-là, son amoureuse lit le manuscrit de son prochain roman. Il porte sur son enfance en Pologne dans les années 20, auprès d'une mère protectrice qui fonde d'immenses espoirs en lui. Malgré son milieu pauvre, Nina ne perd jamais confiance en l'avenir, promulguant une éducation et des valeurs qui marqueront à jamais son fils. Au fil des années, Romain découvre les femmes, la France et l'armée, rêvant de devenir écrivain pour combler les attentes de sa mère.
Ça a l'air, pas mal dans la semi-biographie. Hein?
Ouais, quand même. Esprit de cantine, qui est un documentaire québécois réalisé par Nicolas Paquet. Et j'ai vraiment hâte d'aller voir. Pour ceux et celles qui le savent, je suis gros, je mange beaucoup de patates. Et au Esprit de cantine, et au cœur des villages vivants et menaçants à la fois, ce documentaire met en lumière la réalité rurale par une incursion intimiste et humoristique dans le quotidien de ceux qui tiennent des cabanes à patates.
Hey, ça a l'air vraiment cool.
Honnêtement, juste l'affiche a l'air cool. J'ai pas eu la chance de regarder la bande-annonce, mais c'est un documentaire que j'ai hâte de voir. Félicitations, Nicolas Paquet.
On ira voir ça en gang, ça va être le fun.
Ça pourrait être drôle. Et on pourrait aller manger une patate dans un milieu rural après ça. J'en connais deux ou trois bonnes autour de Sherbrooke.
Bon, merveilleux. Hein? Le roi Giuseppe, c'est pas considéré comme un milieu rural.
Non, chez Woods à Martinville, c'est excellent. Pas à Martinville, à Compton, c'est excellent.
Bon.
J'en connais des patateries locales. Moi, Belle et Jolie, la version originale de I Feel Pretty. Toutou Comedy, Chine, États-Unis, réalisé par Mark Silverstein et Abby Cohn. Sa mère va être Amy Schumer, puis elle est vraiment au centre de la campagne de publicité de cette histoire-là. Une femme insécure se réveille d'une chute en croyant qu'elle est la femme la plus belle et la plus compétente de la planète. Sa nouvelle confiance lui permet de vivre sans peur. Mais que se passe-t-il quand elle réalise que son apparence n'a jamais changé? Amy Schumer nous le dira.
J'aimais beaucoup regarder ses sketchs à l'époque parce que c'est une humoriste aussi que je trouve assez drôle. Et je sais pas si vous avez vu, mais il y a une petite vidéo promotionnelle où elle essaie de dire le titre du film en français pour les Québécois. C'est assez cocasse.
On a Super Troopers 2. La Super Troopers 2 en français aussi. Comédie américaine réalisée par Che Chandrasekhar, qui m'en va d'être Rob Lowe, J. Chandrasekhar, Kevin F. Mann, Jim Gaffigan et Emmanuel Shrieky. 17 ans après la sortie du film Super Trooper, voilà que ses agents disjonctés sont de retour dans une nouvelle aventure qui se déroule dans la ville fictive de Saint-Georges-du-Laurent, au Québec.
Ouh.
La bande-annonce est quelque chose. La série aussi, Super Trooper, est quand même drôle.
Est-ce qu'on va avoir vu la série?
Oui, c'est ça. Hein? Vous avez vu le premier?
Moi, j'ai vu des extraits du premier. C'est pas, je pense pas qu'il va falloir avoir vu le premier, mais c'est quand même... Ça a l'air tweet, là. Ça a pas l'air d'un film brillant. Encore une fois, on ne touche pas au sublime du 7e art, mais on peut avoir du fun.
On est peut-être dans un Lavigueur ou quelque chose du genre.
Également, le dernier, Regard sur Juliette, la version originale de Eye on Juliette. Drame québécois réalisé par Kim Nguyen, mettant en vedette Jokon, Brent Skagfond et Lina El Arabi. C'est une histoire d'amour entre Gordon, un opérateur de drone, et Ayusha, une jeune femme du Moyen-Orient. Gordon, gardien d'un pipeline dans cette région désertique, devient fasciné par Ayusha alors qu'il pilote son araignée robotique de l'autre bout du monde en Amérique. Ayusha est promise à un homme plus âgé qu'elle n'aime pas. Malgré la distance, leur peur mutuelle et l'interaction imparfaite, il fera tout en son pouvoir pour l'aider à échapper à son destin. Pour vous donner une idée, j'ai vu la bande-annonce pour la première fois ce week-end et j'ai eu une larme à l'œil. C'est vraiment charmant comme bande-annonce. De savoir que c'est une production québécoise me remplit encore plus de joie. Ça a l'air extraordinaire comme film.
C'est une production québécoise anglophone?
Ben, en fait, c'est pas clair. La moitié de la bande-annonce se passe en arabe ou un dialecte de l'arabe que je connais pas. Puis l'autre moitié se passe en anglais et en français avec des sous-titres tout le long. Fait que peut-être, je sais pas.
Intéressant.
À voir. Donc, vous allez avoir un petit retour sur la Bolduc, mais avant, Jim visite le FCMS. En fait, à lui tout seul, Jim est le FCMS.
Absolument. Je me suis, je dirais pas sacrifié parce que c'était particulièrement agréable, mais j'ai vu, comme tu l'as dit tout à l'heure, une pléthore de films, Louis, et pas mal de films français. Le premier dont je vais vous parler, c'est le film sur le peintre Gauguin, donc Gauguin, Voyage de Tahiti. drame biographique français, donc sur le peintre Paul Gauguin. C'est réalisé par Édouard Deluc et non pas Le Duc, hein, on peut se méprendre. C'est avec Vincent Cassel qui joue dans à peu près tous les drames français depuis 10 ans, j'exagère à peine, et on écoute la bande-annonce.
Il n'y a plus un visage, il n'y a plus un paysage qui mérite d'être peint ici.
Pourquoi partir maintenant?
Parce que j'étouffe. Je suis un enfant. Je suis un sauvage. J'ai tellement enduré de souffrance pour poursuivre ma voie. Je continue mon chemin. J'ai un but. Je suis un grand artiste. Et je le sais.
Et ça sonnait singulièrement français, cette histoire-là.
Mais la bande-annonce, oui. Moi, me semblait tellement belle. Ça avait l'air vraiment d'un bon film.
Écoute, je vais être honnête. Quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche dans cette bande-annonce-là. Je sais pas quoi. Il y a de quoi qui marche pas. Je savais pas si je l'aimais ou pas. J'avais de la misère. Et en voyant le film, j'ai compris ce qui marchait pas. C'est simplement que tous les éléments de la bande-annonce sont placés d'une manière à faire un sens, mais ils sont tous les mots qu'on entend là sont sortis de leur contexte. C'est vraiment weird. La musique qu'on entend là, elle va à un endroit précis dans le film qui n'a pas de lien avec l'image qu'on voit au moment de le voir.
Clairement, une bande-annonce qui a été faite par une firme externe.
Ben, je sais pas, mais ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Mais on va revenir au film. Donc, le voyage de Tahiti de Paul Gauguin, c'est pas lui qui a fait le film, mais presque lui, parce que un des co-scénaristes s'appelle Paul Gauguin, j'imagine un descendant de Paul Gauguin, parce qu'il est mort depuis un certain temps quand même. Donc, drame biographique français sur le peintre Paul Gauguin, tel que dit tout à l'heure. C'est son histoire, en fait, au peintre qui a quitté Paris en 1891 pour aller vivre en Polynésie française, donc à l'autre bout du monde, et à l'époque, c'est vraiment plus loin qu'aujourd'hui parce que c'est du bateau et tout ça. Tout ça dans le but de se consacrer à son art, loin de l'esthétique occidentale, et dans son nouvel habitat précaire, donc il va être pauvre, il va être malade, il va faire la rencontre fortuite de Tehura, une jeune indigène qui va devenir sa femme, malgré qu'il y a déjà une femme et des enfants à Paris, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça va aussi devenir sa muse. Et je dirais que c'est un film qui est parfois extrêmement sombre, surtout au début, entrecoupé de scènes lumineuses. Je parle même au niveau visuel, là. C'est un film qui est assez sombre visuellement. On va vraiment voir l'obsession de cet artiste-là pour son art, pour ses pinceaux, surtout pour sa peinture, ses toiles. À un moment donné, il n'y a plus de toile, il pogne achète un morceau de tissu puis il transforme ça en toile parce que veut pas, il n'y a pas accès à tout ce qu'il y aurait accès en France. Et bon, voilà. Et en fait, ce film-là, c'est sur ça, mais c'est aussi sur sa relation avec Tehura. Donc, il faut comprendre que c'est sa muse, c'est la première femme, disons, qui lui donne son corps, qui lui donne sa vie depuis son arrivée là-bas. Et il va devenir un peu obsédé par l'énorme différence d'âge qui va le séparer de Tehura. C'est donc une obsession pour son âme, une obsession, une possessivité paranoïaque presque de perdre Tehura qui va se traduire de différentes manières à travers le film. Comme d'habitude dans un film biographique, je vais pas critiquer l'histoire parce que c'est un peu basé sur une chronologie réelle, donc évidemment ça sert absolument à rien de critiquer l'histoire, on gagnera pas. Cela dit, un gros problème dans le film, je sais pas si vous l'avez entendu dans les dialogues, dans la bande-annonce, mais on comprend très mal le dialogue, on comprend très très mal, les acteurs articulent pas. Vincent Cassel qui interprète Gauguin est excellent dans son rôle, ils l'ont vraiment bien vieilli, là, la barbe, tout ça, c'est vrai, ça lui donne vraiment un look là, incroyable, mais la voix par contre, pas vraiment, on dirait qu'il y a une voix de jeune homme, ça c'est un peu bizarre, mais vraiment c'est surtout qu'on comprend rien quand il parle, là. C'est pas moyen de comprendre ce qu'ils disent des fois, puis pourtant j'ai quand même l'oreille habituée là, au dialecte de la France et de différentes régions. Donc voilà, mais ça vaut vraiment la peine d'aller voir ce film-là si vous aimez la peinture, si vous aimez les biographies étranges, parce qu'on peut dire que c'est dans cette catégorie-là. Le voyage à Tahiti de Paul Gauguin fait définitivement partie des films étranges, des biographies étranges. Donc je donne 7 sur 10 au film, parce que c'est franchement un peu inégal et un peu long à regarder, mais c'est intéressant. Si vous avez la chance d'aller le voir comme ça, ça peut être le fun à voir. Mais voilà, sans plus.
Super.
Deuxième film que je vous présente du FCMS, c'est le film La Villa, un drame français de Robert Guédiguian, qui avait aussi coproduit l'excellent film Le Jeune Karl Marx, que Mina avait critiqué l'année dernière.
Que j'avais bien aimé.
Absolument. Donc, dans la villa, beaucoup de gros noms quand même. Jean-Pierre Daroussin, qui joue rarement dans des mauvais films, qu'on voit quand même assez souvent. Ariane Ascaride, Gérard Meilland, Anaïs Demoustier et j'en passe. Voici la bande-annonce.
Ma petite sœur, ma toute petite sœur.
Je te présente Bérangère, ma trop jeune fiancée.
Enchantée.
Il est en haut dans sa chambre. On ne sait pas s'il nous reconnaît, mais si tu veux aller le voir.
Il y a un espoir de guérison ?
Non. Je tente avec ce resto de continuer dans l'esprit de papa, avec des petits prix pour des gens qui ont peu d'argent. Mais là, j'y arrive plus.
J'étais géniale, tes pâtes.
Je ne fais que les recettes de notre père.
Les recettes de notre père qui avait piqué à notre mère. Il ne savait pas faire cuire un œuf avant qu'elle meure.
Comment tu as fait pour rester si loin de nous ?
S'il n'y avait pas eu ce partage à régler, je ne serais pas revenue.
C'est un accident. Tu nous as traités comme des criminels. Tu sais même pas ce qui s'est passé.
OK, juste pour qu'on soit clair, c'est un film à propos d'un homme plus âgé avec une femme trop jeune qui parle de cuisine tout le long?
Absolument pas.
OK, la bande-annonce avait l'air...
Absolument rien à voir. Oui, mais non. Je dévoilerai pas de punch, là, mais... C'est... Je vais faire ma critique, tu me diras.
C'est Calvin, c'est je pensais pas. Là, mais au auditrice, Jim est rouge.
Non, non,
mal,
non,
j'ai
pas, chaud, il fait chaud ici. Hein. Il fait extrêmement chaud.
C'est parce que je suis hot.
Pas sûr que c'est pour ça. Écoutez, vous l'avez entendu dans vous l'avez entendu dans la bande-annonce. La Villa est un film un peu drabe, peut-être trop paisible, terne et blasé. Enfin, c'est mon interprétation. Après que leur père ait eu un AVC, je pense que c'est ça qu'il y a eu, là. C'est pas dit tel quel, mais ça ressemble à ça. Joseph, Armand et Angèle, tous frères et sœurs, se retrouvent après des années sans s'être vus dans le petit bled de leur enfance au bord de mer près de Marseille. Le calme plat et les démons du passé refont surface dans la tête de chacun en passant un peu de temps près de leur père, paralysé pour la vie.
Ça sonne un peu comme un truc de vin français qu'on a vu l'année passée.
Oui, Retour en Bourgogne.
Retour en Bourgogne était palpitant à côté de, à côté de ce film-là.
Mais Retour en Bourgogne était très, très bon. Là.
Oui, oui. Non, mais attends, j'ai pas dit qu'aucun des deux était pas bon. Là.
T'as parlé d'excitation.
Je suis pas rendu là. C'est ça. Donc, ce film-là, je pense qu'il faut le voir comme une espèce de clash de la société moderne. Le mouvement, l'efficacité... Ben, c'est un break de tout ça. C'est un break obligé qui peut même déranger par sa lenteur. Il y a une superbe scène dans le film qui, je pense, vaut le film pour comprendre. En fait, tout le film s'explique dans cette scène-là. C'est une scène où tout le monde est dehors sur un balcon en regardant la mer et prennent toutes des cigarettes un après l'autre. Regarde au loin.
Bon, je suis fumé les cigarettes.
Mais, je dis, c'est... ça dit tout. Ça dit vraiment tout.
Tu sais, Jim, des fois, je t'accuse d'aimer des films que personne ne devrait aimer. Aujourd'hui, je te le confirme.
Attends,
je suis pas convaincu que c'est un film. J'ai l'impression que c'est un portrait qui a duré trop longtemps.
C'est un film. C'est un film introspectif, lourd, en même temps avec un faible parfum d'espoir qui fait son chemin et exerce ses transformations bon an mal an. C'est un film sur la mort au sens très large, mais aussi sur la vie, sur sa durée, sur le changement et l'immobilité. Ce film-là, c'est plate à mourir, mais c'est ça qui fait que c'est un grand film. Parce que c'est comme si c'était vrai. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment comme si c'était ça, la vie là-bas. Mais c'est super plate. Mais c'est ça. Donc, c'est un bon film, mais maudit que j'aimerais pas ça vivre là.
Je veux une note, là.
Écoute, j'ai vraiment eu de la misère à donner une note à ce film-là. Parce que je trouvais le temps long royalement en regardant ça. D'un autre côté, les acteurs sont tous très bons. Tu le sens, la lourdeur, le poids du passé, le poids genre du présent, le côté cynique, l'espèce de peu d'espoir de quoi que ce soit, le village de leur enfance qui est rendu vide, que le tourisme vient autour par-ci par-là, mais tout est mort. Bref, ce film-là, j'ai hésité grandement, j'ai choisi de lui donner 8 sur 10, parce que j'y pense encore à ce film-là, à tous les jours. J'y ai pensé. J'ai vu beaucoup de films durant le festival et ce film-là me dérange encore aujourd'hui. Je m'imagine encore être là-bas avec eux autres. Je m'imagine encore la tristesse mêlée à la beauté de ce paysage sublime qu'est l'océan, qu'est les Calanques de Marseille, que sont les Calanques de Marseille. Mais en même temps, tant de tristesse pour rien.
C'est quelque chose. La Matrice 3.
Ah, mais ça, c'est... ça, c'était pas bon.
Surprenamment pas bon.
Non,
et je pense encore aujourd'hui à la Matrice 3.
Mais peut-être que tu penses à ta déception après... oh, oui, que la conclusion d'une trilogie pareille soit
j'ai mauvaise qualité. C'est pour ça que je... Bref, ouais. La Villa, un film à écouter en épluchant des patates.
Non, je pense que ce film-là, c'est un film de deuil. C'est un film à regarder quand on est triste et on a envie de continuer à l'être. Voilà, j'ai dit.
OK, je vais changer ma réponse, je vais dire un film écouté un jour de pluie. Ça me semble plus approprié.
Puis pourtant, il fait soleil presque tout le temps dans ce film-là.
Ben, raison oui. De plus. Absolument. Non, mais c'était triste, tu veux rester triste, puis mouille dehors, tu regardes
ouais.
La Villa.
C'est ça.
OK. Est-ce que le prochain est moins français?
Écoute, oui, je vais prendre un break des films français, j'en ai d'autres après. Je vais prendre un break. C'est pas tout à fait un film français.
Si l'Association des Français de Sherbrooke nous entend, on aurait besoin d'une carte de français honorifique pour Jim.
Moi, j'adore le cinéma français, il faut dire. Là, je suis vendu à la base. Mais en tout cas, là, je vais vous parler d'un autre film. Une famille syrienne. Alors... Ça, là, Louis, tu vas trouver que l'autre était joyeux à côté de ça. Alors, une famille syrienne, là, c'est franchement tout un drame, on pourrait dire un drame de guerre même. C'est une production, c'est pas français, mais c'est franco-belge et libanais. Le film a été tourné au Liban parce que, évidemment, une famille syrienne, c'est à peu près impossible de tourner en Syrie compte tenu des conflits armés qui sont persistants. Le film est réalisé par Philippe Van Loo, je pense que c'est Loo, la façon de le prononcer, à qui on doit aussi le film Le jour où Dieu est parti en voyage, qui est sorti en 2010, un autre film assez rough, un peu sur la guerre, mais cette fois-là au niveau du génocide au Rwanda. Pour revenir à Une famille syrienne, donc c'est un film en arabe sous-titré en français. On écoute la bande-annonce.
العالم اللي برا ما عاد يسوى فرنك
بصراحة ما بعرف كيف بدي أشكرك على كل شيء عملتي معنا
ماما
هذا البيت بيتي وما حدا بيطلعني منه ما حدا فهمتي
كان بدي استنى جوزي يرجع منشان خبرك بس اليوم بالليل مسافرين
Alors, on remarque tout de suite l'ambiance sonore remplie de coups de feu et d'explosions.
Moi, définitivement. Ça, même sans comprendre le dialogue, parce que troisième confession de la journée, je parle pas arabe.
Oui.
Mais j'espère que c'était pas un dialecte parce que le genre a encore plus
tweet. Non, celui-là, je pense pas.
OK. Mais je comprends pas l'arabe, mais juste au climat sonore, j'ai déjà plus de plaisir. Là. J'ai envie d'aller écouter Une famille syrienne vraiment plus que les deux autres d'avant, combinés ensemble.
Écoute, pourtant... c'est le film le plus rough que j'ai vu au festival. Mais je ne vous cacherai pas que c'est vraiment le plus rough que j'ai vu depuis très longtemps. Ça passe même en année. Donc, voilà, on va suivre une famille syrienne durant une journée, justement. T'sais, on parle d'une famille syrienne, mais c'est une famille étendue. Il y a la voisine qui vit avec son bébé, entre autres. Il y a le chum d'une des filles de la femme qui habite là, sans oublier la domestique qui vient aider avec les tâches ménagères. Donc, sauf pour une exception, malgré tous les bruits qu'on a entendus là, la caméra ne sort jamais de l'appartement.
Ça doit donc bien être malade.
C'est claustrophobique à fond. Ça n'a juste aucun sens. On est dans un traitement à la caméra épaule avec des longs plans séquences. On suit les gens à deux pouces du visage, un peu comme dans un film des Frères Dardenne. Extrêmement dérangeant parce que, bon, d'une part, c'est claustrophobique. La mère est complètement obsédée par le fait de garder la maison propre malgré les explosions qui envoient de la poussière sans arrêt. On entend des coups de feu tout le temps, ils sont en pénurie d'eau, des fois ils manquent d'électricité. La vie, ça va plutôt mal, en fait, disons-le. Et c'est ça, il y a des des snipers dehors. Ils savent pas s'ils peuvent sortir ou pas. Ils sont comme un peu barricadés parce que s'ils sortent, les snipers ils tirent arbitrairement sur tout ce qui bouge. Donc, c'est de quoi. Bref, ça va pas très bien. Cela dit, c'est excellent. C'est totalement excellent. Parmi les actrices, il y a Yam Abbas, qu'on a vu dans de multiples films, et plus récemment dans La Source des Femmes. Diaman Bou Aboud, qu'on a vu dans le récent film L'Insulte, que j'avais critiqué et beaucoup aimé.
T'as même dit un bijou du cinéma international.
Absolument,
et
absolument.
Je cite.
Je trouve encore que ce film-là était très, très bon. Donc, les actrices dans ce film-là, c'est très, très, très réussi dans le film Une famille syrienne. Faut pas oublier que les rôles féminins sont vraiment à l'avant-plan dans ce film-là. parce que les maris sont partis, sont absents. Donc, on donne vraiment une place d'autorité aux femmes. On les voit prendre des décisions, pas toujours faciles. On pourrait dire qu'on est toujours en siège. Mm-hmm. Donc, on est toujours assiégé dans un appartement un peu miteux, qui est délabré, qui est craqué de partout. On barricade la porte avec des 2x4. Écoute, voilà, ça donne un peu l'ambiance. Film extrêmement dur à voir. Ça nous pogne au ventre tout le long, une espèce de tension perpétuelle de savoir si le pire va arriver. Ça faisait un certain temps que j'avais pas eu des émotions comme ça, honnêtement, au cinéma. Je donne 9 sur 10 à ce film-là, 9 sur 10. Vous aurez peut-être l'occasion de voir ce film-là éventuellement, et si c'est le cas, franchement, si vous voulez voir quelque chose d'intense, là, allez-y, là, c'est très 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 bon. Pour le prochain film qui a été présenté au Festival du cinéma du monde de Sherbrooke, le film Ava, et attention, je veux faire une petite mention, il y a 2 films qui s'appellent Ava au Festival.
Ben voyons.
Donc, il y en a un qui est un film court, si ma mémoire est bonne.
C'est deux longs métrages. Donc là, je vais vous parler du film Ava, le film français. Mais il y a aussi un film Ava en perse d'une réalisatrice montréalaise d'origine iranienne qui va être présenté demain midi, donc je ne l'ai pas encore vu. Mais le film dont je vais vous parler maintenant, c'est un film français, et on va revenir à ce film-là, un drame sentimental français réalisé et coécrit par Léa Misius. Ce n'est pas une nouveauté, en fait, le film est sorti chez nous à l'automne dernier, mais j'ai quand même choisi de vous en parler parce que malgré l'excellente critique, ça a été un échec commercial total. Donc, film qui n'a pas été distribué comme il aurait dû l'être. Pourtant, franchement, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Donc, le film Ava était présenté hier au festival, mais va être aussi présenté demain à 18h à la Maison du cinéma. Si vous voulez le voir, on écoute la bande-annonce.
Je pensais y être préparée, mais ça m'a fait un choc. Est-ce que mes rêves vont disparaître aussi?
Ça va, ma chérie? Tu passes un bel été?
Je voudrais que ce soit le plus beau de ta vie.
22 août. Il a un visage incroyable. Je serais morte de ne pas l'avoir vu. Alors je veux le voir encore. Je veux le sauver, je veux être sauvée.
Jim?
Oui.
Es-tu une jeune adolescente, puis t'as oublié de me le mentionner?
Presque. C'est un film d'ado, mais t'as aussi été voir un film d'ado.
J'ai aussi été voir.
Vous avez tous été voir un film d'ado. Alors, je me suis dit, moi aussi, je vais aller voir un film d'ado. J'ai été voir Ava, mais c'est pas un film d'ado traditionnel. On est vraiment dans un film d'ado particulier. Alors, les acteurs sont tous de la relève, pas connus du tout.
OK.
Ce qui est, pour moi, très positif. Ava, 13 ans, en pleine adolescence, mais très introverti, pas beaucoup d'émotions, un peu à Alexis Timic.
Ava-tu bien?
Ça dépend quand. Ça dépend quand.
Louis, j'aime ça quand tu fais des jeux de mots, ça me fait du bien.
Elle passe les vacances au bord de la mer avec sa mère. Faut savoir qu'en France, tout le monde prend leurs vacances au bord de la mer en même temps. Donc, la jeune fille Ava apprend de son optométriste qu'elle a une maladie des yeux incurable et que son champ visuel va diminuer grandement jusqu'à ce qu'elle perde totalement la vue, puis à court terme, qu'elle verra plus du tout le soir, mais éventuellement, elle verra plus du tout tout court. Donc,
elle va devenir aveugle.
Elle va devenir aveugle, c'est ça.
Donc, et de deux.
Témoin de l'arrestation d'un petit bum qui a un chien, elle décide de voler son chien. Peu à peu, elle va se retrouver à commettre des choses illégales et va faire une cavale. Donc, évidemment, je simplifie pour pas dévoiler, parce que c'est les détails qui rendent ce film-là bon. Mais le film est un film névrosé sur une fille névrosée avec sa mère névrosée. Mais c'est aussi un film sur la découverte de soi, un peu sur la sexualité, sur l'euphorie et sur la sensation d'exister. Et ça, c'est franchement le cœur de ce film-là. C'est un court moment dans le film qui dure quelques secondes et c'est l'apogée du bien-être. Mmh. Comme grandement, la sensation de découvrir la vie, tout ça est de très courte durée malheureusement. Donc le film Ava m'a surpris tout au long du film, tout au long du visionnement. Il va nous traîner, on va l'aimer, on va l'haïr, mais c'est quand même un peu long. Un humour et métaphore très subtil et bien dissimulé. C'est possible de garder ce film-là et de ne voir que la couche du dessus, donc ça se pourrait que des gens ne comprennent pas tout cet humour-là. Il y a énormément de nudité dans ce film-là, mais aucune vulgarité. Mmh. Mais il y a vraiment beaucoup de nudité et pas juste le haut du corps. Donc, ouais, c'est ça.
Mais de ce que je comprends, c'est pas au niveau de Blocker.
Non, c'est pas le même genre de film du tout. C'est un coup de cœur, franchement, oui. Un film qui ne laisse pas indifférent. Je lui donne 8.5 sur 10. Je vous recommande d'aller le voir demain à 18h si jamais ça vous intéresse. Donc, le film Ava.
Merci, Jim. Hey, on arrive à la fin.
Il m'en reste un. Wow. Il m'en reste un. On quitte définitivement les films français.
Ouh, je suis excité.
Oui, on va aller critiquer le film jusqu'à la fin des temps. C'est assez rare qu'on ait la chance de voir des films produits par les pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Évidemment, au festival, ça nous permet d'en voir parce que c'est souvent des films qui sont impossibles à distribuer dans le monde. Heureusement, le festival, encore une fois, était là pour nous cette année et nous a présenté notamment Une famille syrienne, mais cette fois-ci, jusqu'à la fin des temps, un film algérien. C'était présenté mardi soir à la Maison du cinéma et je pense qu'il a été plutôt bien reçu par la salle. Mais Note était là aussi.
J'étais présente.
As-tu bien reçu?
J'ai bien reçu.
Le film est écrit et réalisé par la jeune réalisatrice Yasmine Chouik, qui, dans la mi-trentaine, a étudié en sciences humaines, en arts, mais aussi en sciences de l'éducation et en psychologie. Elle est aussi actrice dans quelques films et à la télévision. Le film, jusqu'à la fin des temps, est évidemment en arabe sous-titré français, mais cette fois-ci, c'est de l'arabe dialectique. Donc, voilà. Voici la bande-annonce.
Ya, miskine, Allah yirhamha. Hadi sharika ghadi tahla hna inchallah rabbi. Nafi sidi bouf. Inchallah. Ha wata Mohamed, ma kunt chouf. Ha win idi. Ma yzghoud la al chemal la al yemin. Hada garanti kaa. Ou el mit?
Ani bayni aish maak. Walou tabqa lila min omri.
ايش بيه؟
خليك من هذا.
Le film, jusqu'à la fin des temps, raconte l'histoire d'Ali, un vieil homme solitaire, fossoyeur et gardien du cimetière de Sidi Boulekbourg. Chaque année, un grand pèlerinage funéraire a lieu. Des centaines de personnes viennent en autobus pour se recueillir sur la tombe de leurs proches à Sidi Boulekbourg. Cette fois-ci, Joher, une sexagénaire qui vient se recueillir pour la première fois sur la tombe de sa sœur, fait la rencontre d'Ali. Entourée de ce mode de vie axé sur la mort, elle entame des démarches pour préparer ses propres funérailles. Donc, sa rencontre avec Ali va changer leur deux vies pour toujours. Le film donne un regard sur la mort qui est différent de ce qu'on connaît, tant au niveau culturel que par l'approche parfois humoristique du film, qui surprend franchement à chaque fois. Mm-hmm. Ça riait franchement dans la salle, puis pourtant les thèmes sont, tu sais, ceux de la mort et tout ça. Le film était très beau et l'idée était ingénieuse et intéressante. L'intensité du film était moins dans les dialogues que dans les silences et dans le non-verbal très développé dans le film. Métaphoriquement, on peut dire que l'amour prend un autre sens avec les yeux de celui qui est mort que pour celui qui est vivant. Mmh. Donc, il faut... Film vraiment plus léger qu'on pourrait le penser, vu les thèmes. Les comédiens sont absolument parfaits, encore là, des gens pas tellement connus, pas du tout connus même. Notons que l'imam joué par Mohamed Bembakreti ressemble énormément à Martin Landau à l'époque de Mission Impossible. Oui, c'est vrai.
Je sais pas c'est qui Martin, donc je peux pas confirmer.
Ah bon, enfin, je te montrerai des photos. Je donne 9 sur 10 à ce film-là, jusqu'à la fin des temps. Extrêmement bon film qui fait du bien à voir.
Oui, j'ai beaucoup aimé moi aussi, là, je l'ai vu, effectivement, la salle était pleine, presque pleine.
Oui.
Et je pense qu'effectivement, ça a été bien reçu. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il y avait vraiment des petits moments vraiment très précieux dans ce film-là. Puis à un niveau technique aussi, il y avait des choses particulièrement intéressantes.
Oui, absolument. Absolument.
Oui.
Très bon film. Alors voilà, c'était tout pour mes critiques. Donc, avec aujourd'hui, il reste 2 jours au Festival du cinéma du monde de Sherbrooke. Des primeurs pour des films qui vont sortir en salle dans quelques semaines. L'Apparition, un film français de Xavier Giannoli sur un journaliste qui enquête sur une jeune femme de 18 ans qui aurait vu La Vierge Marie. C'est un film qui a été annoncé depuis plusieurs mois. Donc, ça va être disponible. Sinon, Big Time, un documentaire danois sur l'architecte Bjarke Ingels. Moi et Kaminski, un film allemand, un jeune critique d'art ambitieux, mais dans une situation très précaire, convainc son éditeur de lui financer un voyage pour aller rencontrer Manuel Kaminski, qui vit dans les Alpes depuis qu'il est aveugle. Un autre film allemand, 24 semaines, Astrid, une humoriste de cabaret populaire, grâce à ses sketchs semi-autobiographiques et enceinte de 6 mois, apprend que son bébé est trisomique. Si vous avez manqué le film Barbara, qui avait été présenté à la Maison du cinéma il y a quelques mois, ben, demain, 15h à la Maison du cinéma. Même chose pour Ava à 18h. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un autre film, Ava en Perse, une jeune iranienne de 17 ans qui conteste les règles strictes de son éducation traditionnelle. Elle apprend que sa mère a également enfreint des règles en tant que jeune femme. Ça sera présenté demain midi. Et finalement, Félicité, une production française, sénégalaise, belge et allemande. Si vous avez manqué le film hier, il sera présenté demain à 15h à la Maison du cinéma.
Wow! Beaucoup d'informations. Il y a toujours le site internet si vous n'avez pas réussi à retenir ce que Jim
Absolument,
nous
Absolument, sur le site du FCMS, fcms.ca. Voilà.
Voilà. Merci beaucoup, Jim.
Merci à toi.
Fait que on va rapidement parler de La Bolduc, parce que j'ai été voir La Bolduc, j'ai aussi vu beaucoup de films, mais pas dans le cadre du FCMS.
Oui.
J'ai été voir La Bolduc et j'ai beaucoup aimé ce film-là, d'ailleurs. Et j'ai voulu me renseigner, en fait, à savoir les Christies de musiciens qui sont pas tant aimés avec la musique dans le film. En fait, j'ai eu la chance d'entendre une interview avec Debbie Lynch-White, qui joue le rôle éponyme de La Bolduc.
Oui.
Comment s'est passée la préparation? Puis en fait, sur scène, lors des enregistrements, ses instruments à elle étaient rendus inaudibles. C'est-à-dire que son archet était graissé, huilé, pour ne pas qu'on entende le violon, parce que bien qu'elle avait appris comment faire la représentation physique, apparemment qu'elle sortait ce qu'on appelle dans le milieu des sons de chat qui crèvent.
Ah, c'est agréable. Oui.
Fait que c'est probablement pour ça, en fait, qu'il y a eu des délais comme ça. Mais moi, j'ai beaucoup aimé La Bolduc, juste pour qu'on soit clair. Là, je pense que c'est un beau regard dans le passé québécois. Mm-hmm. Puis je trouve ça intéressant parce que souvent, il manque de documents d'archives facilement accessibles sur certaines de nos légendes, qu'on parle de La Bolduc, qu'on parle de Louis Cyr, qu'on parle de Michel Chartrand, qu'on parle d'un paquet ces gens-là qui ont vécu des vies extraordinaires, mais qui sont moins connus parce que manque de documentaires et autres formats intéressants pour les découvrir.
T'as bien raison.
Fait que c'est un appel à tous nos cinéastes de travailler là-dessus.
Merveilleux.
Ce serait donc tout, mesdames et messieurs. Ce serait la fin des haricots ainsi que du popcorn en ce samedi extraordinaire. Il fait beau, soufflés, il fait chaud, je pense. Mais c'est quand même le temps d'aller plus au FCMS. Jim nous a mentionné qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant à aller voir.
Oui.
Sinon, il y a toujours des sorties intéressantes. Sinon, il y a toujours plus de popcorn à manger. C'est donc moi-même, Louis Laramie, qui vous souhaite une extraordinaire semaine.
Bonne semaine!
Bonne semaine!